Bonjour et bienvenue, c'est l'épisode 10 de ITcast du 3 avril 2015. Je suis Pascal Solière avec mes collègues Arnaud et Stan. Nous vous avons préparé un petit tour d'actualité avec de l'Office, de la Surface, du Windows 10, de l'Intune, de l'Azure et de l'Active Directory. Tout ceci a été enregistré hier, jeudi, dans les locaux de Microsoft, évidemment. IT Camp oblige, puisqu'aujourd'hui, vendredi 3, nous sommes à Lyon pour un IT Camp spécial migration Windows Server 2003. Et bien tout de suite, les actualités avec Arnaud et Stan. Eh bien, je suis donc avec Arnaud Lheureux. Salut Arnaud.
Salut Pascal, salut
puis,
à tous.
Et puis Stanislas Kwastana. Salut Stan.
Bonjour à tous et à toutes.
Et on est dans les locaux de Microsoft, on est le 2 avril 2015 pour ce numéro 10 de ITcast et on va vous parler aujourd'hui des actualités autour de différents sujets comme Office, Surface, Azure, etc., Active Directory. On a pas mal de sujets, une actualité très riche ces deux dernières semaines qu'on va détailler avec vous. Des petites choses avant de démarrer ou on attaque directement dans le vif du sujet?
Allez, on y va.
Allons-y.
On y va. Donc première nouvelle autour d'Office. Donc il y a eu pendant ces deux semaines pas mal de nouvelles autour d'Office, notamment des accords avec des constructeurs d'Android, dont Samsung et Dell. Samsung, Dell et d'autres. Que ces constructeurs-là vont inclure dans leurs appareils, et notamment des tablettes, surtout des tablettes Android, des applications Microsoft Office, et donc notamment Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Skype, qui seront préinstallés sur ces tablettes Android.
Alors, effectivement, Pascal, la liste est quand même assez pléthorique. Alors, le plus important, probablement, c'est Samsung, hein, qui est quasiment les plus gros fournisseurs de périphériques Android du marché. Mais comme tu l'as dit, on a également Dell, on a après des constructeurs un peu plus régionaux. On a par exemple Trextor en Allemagne, on a JP Sacunto qui lui est au Portugal, on a Damatic en Italie, Dext en Russie, etc., etc. Donc l'idée effectivement c'est de fournir... ou plutôt que ces 11 constructeurs, c'est qu'il y en a 11 constructeurs de matériel
11 constructeurs,
qui font Android, c'est de préinstaller effectivement des éléments d'Office pour Android directement dans leur périphérique. Alors c'est quoi? C'est Excel, c'est Word, PowerPoint, OneNote, OneDrive pour la partie synchronisation de données, et puis Skype également.
Et si je ne m'abuse, c'est l'occasion également de rappeler que tu viens d'écrire un article, Stan.
Oui, alors j'ai écrit un petit article, parce que récemment j'ai fait l'acquisition d'une tablette Android, en fait deux tablettes Android pour être exact. Il y en a une que j'ai renvoyée chez son constructeur. Et donc j'en ai profité pour lister dans un article les applications Microsoft qu'on a développées pour Android et qui sont utilisables, on va dire, dans un monde d'entreprise. Donc il y a beaucoup d'applicatifs sur Office, mais il y a des choses également sur Dynamics, donc Dynamics CRM, Dynamics Nav, Dynamics AX, enfin, il y a pas mal de choses. Il y a également des choses sur Intune. Et il y a des petites choses également sur Azure, notamment sur le portail des applications. Donc c'est assez... j'ai voulu rassembler en fait dans un même article l'ensemble des pointeurs permettant de s'y retrouver un petit peu. Donc l'article sera dans le blog, mais c'est simple à retenir, ak.ms/msandroid. Et donc on a la liste des applications.
Autre nouvelle concernant Office, il y a une preview publique cette fois-ci qui a été annoncée pour une nouvelle fonctionnalité qui est l'authentification moderne, entre guillemets, d'Office 2013. En fait, c'est l'accès à l'API ADAL, Active Directory Authentication Library, qui permet d'avoir des scénarios d'authentification un petit peu plus riches que d'habitude, donc notamment quand on va lancer ces applications Office 2013, on va pouvoir se connecter à son compte, s'authentifier sur son compte Office 365 avec des authentifications riches de type multifacteur, carte à puce, ce genre de choses-là. Donc pour l'instant, c'est en preview public. Attention, il y a pas mal de... Donc je mettrai l'article, hein, le pointeur vers l'article. Il y a pas mal de conditions à respecter, et donc je conseille vivement de faire ça sur des tenants Office 365 de test pour ne pas tomber dans des pièges où on ne peut plus accéder à ses comptes Office. Donc à manipuler avec précaution, mais très intéressant sur le futur de l'authentification avec Office et Azure Active Directory.
Oui.
Puisqu'on est dans les applications Office, ben, il y a deux nouveautés. C'est qu'il y a une preview de Office 2016 desktop qui est sortie, et puis en même temps une preview de Link, enfin la nouvelle version de Link qui s'appelle plus Link et qui s'appelle maintenant Skype for Business. Donc on peut installer soit de façon autonome, soit avec la preview d'Office 2016 pour Windows Desktop.
Donc les interfaces se rapprochent un petit peu, hein, Skype for Business ou Link devient un petit peu plus sexy, presque aussi sexy que le Skype grand public. Quand on voit des interfaces qui commencent à converger, des trucs qui sont plutôt cool. Même techniquement, ça continue à converger. Tu vas pouvoir intégrer ton Link professionnel, avoir accès à l'environnement, au Skype perso. Donc, on va pouvoir comme ça intégrer les deux univers dans une tendance de plus en plus où le monde perso et pro se mélange de plus en plus.
Et je crois que tu l'utilises en prod, hein,
ouais,
Skype for Business à la place de Link.
Ouais, j'ai ça sur ma machine et j'en suis plutôt satisfait.
Donc, c'est utilisable.
Ouais, carrément.
En même temps, on n'a rarement pas été content de Skype en général. Hein, donc du coup, c'est plutôt bon signe que les équipes de Skype reprennent un peu la main sur la voie sur IP, qui est également en partie entreprise.
La dernière news au niveau d'Office, c'est quelque chose qu'on avait annoncé il y a un moment. C'est le Device Management inclus, donc le MDM, des fonctions de MDM incluses dans Office 365, et qui est maintenant quelque chose de disponible pour tout le monde, pour tous les clients, qui ont un abonnement Office 365 commercial, donc professionnel.
Donc, si j'ai bien compris, Pascal, mais tu me diras si je dis des bêtises, hein. L'idée, en fait, c'est qu'Office 365, en sous-jacent derrière, on va avoir une sous-partie de Microsoft Intune, qui est notre solution officielle de management, de gestion des périphériques, hein, de MDM. Et on va avoir derrière également en arrière-plan Azure Active Directory. Et en fait, ils sont simplement vus au travers de l'interface d'Office 365 pour réaliser certaines tâches qui ont pour objectif principal en fait, de conserver, en fait, de sécuriser un petit peu les données qui sont sur ces périphériques mobiles. Donc je pense qu'on va avoir donc, du coup, des politiques de sécurité, des choses qu'on connaît depuis assez longtemps.
Voilà, on a trois familles de fonctionnalités qui vont nous servir. C'est l'accès conditionnel, donc c'est des choses qu'on connaît déjà, hein, tout ça, avec Intune et avec Intune version complète. Donc le conditional access, l'accès conditionnel, c'est dire, par exemple, ben, je vais pouvoir me connecter à mon Office 365 depuis mon périphérique, Windows Phone, Android ou iOS, uniquement si le périphérique en question est enregistré dans le MDM. Donc c'est le principe de l'accès conditionnel. La deuxième famille de fonctionnalités, c'est le device management, donc la possibilité de définir des politiques de sécurité, de certains paramètres. Par exemple, on va imposer une taille de mot de passe, un délai de verrouillage de l'appareil, ce genre de choses-là. Et puis, la troisième fonctionnalité, ça va être le Selective Wipe, donc la possibilité pour l'administrateur de supprimer les données Office 365 stockées sur les appareils dans des scénarios de type Bring Your Own Device. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà avec les solutions classiques de management, mais là, ça va être inclus dans l'abonnement Office 365 professionnel qu'on a. Donc, il n'y a pas de surcoût pour avoir ce type de fonctionnalité, ce qui est plutôt intéressant.
Oui, donc c'est les éditions, je précise, Office 365 à destination des entreprises. Ce n'est pas les éditions particulières.
Tout à fait.
On va avoir effectivement l'édition business, entreprise, éducation, et puis tout ce qui est plan gouvernemental. Et peut-être une différence entre les périphériques qu'on peut manager avec Office 365 MDM versus Microsoft Intune,
voilà.
C'est qu'Intune, en fait, on peut également administrer des postes Windows classiques, chose qu'on ne peut pas faire dans Office 365, où on est entre guillemets limité aux périphériques sous iOS, sous Android ou sous Windows Phone.
Voilà, et puis il y a tout un volet des fonctionnalités qui sont dans Intune dont on ne dispose pas dans le MDM pour Office 365, comme la définition de profil de certificat, de profil Wi-Fi, de profil VPN, des configurations d'email, ce genre de choses-là.
Pareil, tout ce qui est manage browser, PDF viewer, image viewer pour Android, ça ne l'a pas. Le déploiement également des applications.
Donc tout ce qui n'est est
pas, donc tout ce qui est tout ce qui est mobile application management n'est pas géré.
Voilà. Mais pour le prix, c'est-à-dire zéro surcoût par rapport à Office 365, on a déjà une partie des fonctionnalités qui est intéressante.
C'est plutôt cool.
Oui, et puis on peut combiner en fait avec de l'Intune. Si on a Intune à côté, on peut en gérer une partie. On pourra gérer une partie de notre MDM dans l'interface Office 365, pourquoi pas, et puis l'autre partie pour par exemple les postes Windows dans Intune si on le souhaite. Donc l'administration se fait dans le portail d'administration d'Office 365. Donc portail qui est dédié à ça, et on a rajouté en fait les fonctionnalités de MDM dans ce portail, dans ce même portail. À propos d'Office, et pour conclure sur Office, à moins que vous voyez d'autres actualités, j'ai trouvé à l'occasion de ces petites recherches-là un site qui s'appelle roadmap.office.com. Sur le même principe des roadmaps d'Azure et d'Azure Active Directory et tout ça, on a une roadmap des fonctionnalités d'Office, donc ce qui vient de sortir, ce qui est en cours de déploiement, ce qui est en cours de développement, et puis ce qui a été abandonné comme fonctionnalité. C'est toujours intéressant de se référer à ça quand on s'intéresse à des solutions de type cloud public, puisque on sait qu'on n'est pas maître. Quand on est utilisateur, on voit un petit peu les fonctionnalités qui arrivent au jour le jour, on s'y attend pas toujours. C'est toujours intéressant d'avoir cette vision à l'avance de ce qui va sortir comme fonctionnalité, donc c'est plutôt sympa. Donc roadmap.office.com.
C'est plutôt bien, parce que ça fait des années qu'on n'avait plus trop l'occasion d'annoncer des roadmaps. Là, c'est plutôt intéressant. Donc, par exemple, dans les un petit peu gratté ce qui était prévu dans Office 365. Donc il y a plein de choses qui ne me parlent pas forcément, parce que je ne suis pas spécialiste Office 365. Mais il y a deux, trois petits trucs qui m'ont un peu intéressé, notamment en tant qu'utilisateur, le stockage illimité dans OneDrive for Business. Donc, aujourd'hui, si on a un compte, on a un OneDrive for Business pour ses périphériques d'entreprise, pour partager avec ses collègues des données, etc. On est limité, entre guillemets, à 1 Tera d'Office 365. Et à partir dans 2015, eh bien, on passera en mode illimité. Et ça, c'est cool.
Ce qui est plutôt cool, oui. Comme donc ce qu'on a avec la version grand public. Office 365 Family, par exemple, nous donne un stockage illimité dans le OneDrive grand public.
Exactement. Et du coup, en fait, dans les futures fonctionnalités qu'on va avoir, on parle de MDM dans Office. Donc là, pour l'instant, tu nous as cité les fonctionnalités qu'il y avait. Dans les prochaines fonctionnalités qu'il y aura dans le futur, ce sera également la possibilité de manager en fait tout ce qui est justement OneDrive for Business directement pour pouvoir piloter ça sur les différents périphériques iOS ou Android.
Deux mots sur Surface. Il y a eu un article qui est sorti récemment, dont je mettrai le pointeur également, qui est intéressant, sur le troubleshooting des problèmes post-déploiement des Surface Pro 3. Donc voilà, il y a des gens qui rencontrent des problèmes. Cet article y répond de façon assez systématique, c'est assez intéressant, notamment si vous avez des problèmes liés aux gestions de l'énergie, des plans de gestion d'énergie sur les Surface Pro 3, comment les adapter à vos besoins, etc. Comment récupérer les drivers qui vont bien. Ben, c'est plutôt pas mal fait, cet article. Et puis donc, la grosse annonce Surface, c'est que cette semaine, le 31 mars, on a annoncé une nouvelle Surface. On s'y attendait pas du tout.
Un jour près, on était bon. Mais effectivement, tu as dit une grosse annonce, c'est plutôt une petite tablette qu'une grosse annonce.
Une petite tablette, oui. Donc une petite Surface 3, qui s'appelle Surface 3, qui fait 10,8 pouces. 10,8 pouces, donc 11 pouces. Toujours avec un rapport de 3,5 entre la largeur et la hauteur. Même principe que la Surface Pro 3, sauf que qu'est-ce qu'elle a de particulier? Moi, j'ai retenu qu'elle avait une prise d'alimentation qui était une prise micro USB. Ce qui est sympa, puisque si jamais on n'a pas sous la main le chargeur d'origine qui est super rapide, parce qu'il est assez puissant en termes de watts. J'ai plus en tête le nombre de watts qu'il délivre, mais c'est assez important. Ben, on peut toujours la charger. Certes un peu plus lentement, mais on peut la charger quand même avec un chargeur de téléphone.
Donc rien à voir avec une tablette Dell venue Pro 8 qui ne voudrait plus se charger parce qu'elle n'a pas son chargeur d'origine et son câble d'origine, quoi. Tout rapport avec des faits, des personnes existantes ne serait pas fortuite. Donc non, effectivement, là on peut espérer du coup avoir une tablette plutôt sympa. Petite différence par rapport à une Pro versus une normale, au-delà de la taille de l'écran, c'est également le processeur, Pascal.
Alors le processeur, c'est un Atom X7 quad-core. Je ne connais pas ses performances par rapport à ce qu'on connaît actuellement.
Bah, globalement, les Bessel, les processeurs Atom sont plutôt de bonne qualité aujourd'hui pour des usages bureautiques. Certes, pour jouer, ce n'est pas forcément l'idéal, mais pour des usages de navigation bureautique, il y a zéro souci. Intel a récemment renommé ses processeurs Atom avec des numéros également, ce qui permet en fait de classer, non plus d'avoir une codification que personne ne comprend, mais là, avec, ils ont des X1, X3, X7. Et en gros, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'ils ont encore, Core i3, Core i5, Core i7. Sauf que là, c'est ramené au monde de l'Atom. Donc là, quand on est sur le X7, on est quand même sur du processeur Atom, entre guillemets, haut de gamme. Donc peu de consommation énergétique et plutôt bien adapté en termes de dissipation thermique sur une tablette comme ça. Parce qu'à ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de ventilateur.
Il n'y a pas de ventilateur.
Donc il faut effectivement un processeur capable de ne pas trop chauffer pour être refroidi de manière passive.
Ouais, là, on estime en plus que la durée de la batterie, c'est 10 heures. L'ambition, c'est qu'on soit capable de travailler toute la journée avec. Petite autre chose que j'ai repérée dans la différence aussi, moi, c'est que contrairement au Surface Pro 3, on n'a pas de. On a en fait trois positions prédéfinies sur le kickstand, la béquille, si je puis dire. Ouais, on a trois positions, on n'a pas comme ça une latitude de position infinie, comme c'était le cas sur Surface Pro 3. Enfin, comme c'est le cas sur Surface Pro 3. Ça c'est une petite différence aussi qu'il faut avoir en tête. Et puis petite différence au niveau des caméras, on est sur une 3,5 mégapixels en frontal et une 8 mégapixels en back-end. Donc pour prendre les photos du Louvre, hein, quand on est en plein centre de Paris et que c'est la grosse tablette, c'est l'idéal.
Elle fait 622 grammes, ouais. Ce qui est un poids tout à fait raisonnable.
Yes.
Alors le clavier et le stylet sont en option. Hein, comme d'habitude.
Et puis ça vient aussi avec petit cadeau de la maison, un abonnement Office 365 plus d'un an.
Oui. Au passage, tout à l'heure, je t'ai dit processeur Atom X1, etc. Je me suis trompé, le X1 n'existe pas, ça c'est chez BMW qui a des options également. C'est donc Atom X3, X5 ou X7, hein, donc ça permet de faire le pendant avec les cores i3, i5 et i7. Donc le Atom X7, c'est le dernier,
c'est
le plus puissant. C'est la Rolls de l'Atom, Pascal.
Le meilleur.
Le dernier. Cool.
À la vente, bientôt, dans une épicerie près de chez vous, c'est ça, hein, début mai, si je ne me suis pas trompé, en France.
Début mai, et dans toutes les grandes surfaces qui vendent de la machine.
Ça tombe bien, surface. Dans toutes les grandes surfaces. La boucle est bouclée.
Exactement.
The buckle is buckle, comme disent les Américains.
Pour la maudite somme de...
Ah. Je ne sais pas le taux de conversion qui sera appliqué.
On le sait. Je crois que c'est 600 euros à partir de 600 euros.
Très bien.
Voilà. Avec l'abonnement Office.
Cool.
Pour un an.
Oh oui.
Alors, Windows 10, tant qu'on est sur les surfaces et les postes clients, on a un petit peu de Windows 10.
Bien sûr.
Alors déjà, avant de parler de la dernière build, il y a eu les ISO de la 10.0.41 qui ont été disponibles le 25. Donc là, ça, c'est plutôt sympa si vous voulez tester ça sur des vrais déploiements. Notamment tester les procédures de déploiement. Ça peut être toujours sympathique avec les ISO. Hein.
Exactement. Et puis par contre, si vous êtes dans les Windows Insider, dans le Ring Fast, dans l'anneau Fast, on a la 10.0.49 qui a été mise à disposition. Que personnellement, je me permettrais de vous recommander.
Alors moi, je ne sais pas laquelle j'ai récupérée du coup, parce qu'à la maison, j'ai une machine qui est dédiée à ça, qui hier a pris une grosse volée dans la figure. Ouais. Et je suis en Ring Fast, donc je pense que c'est la dernière.
Ouais, alors en fait, la différence fondamentale entre la 10.0.41 et la 10.0.49, voilà, c'est l'inclusion de Spartan en tant que navigateur additionnel à IE. Hein. Ça remplace pas encore IE, c'est pas l'objectif de cette build. Si vous pouvez utiliser les deux en même temps et puis comparer, voir un petit peu comment ça marche, et puis surtout nous faire plein de feedback pour qu'on puisse avoir le meilleur navigateur au monde.
Ouais, et puis pour les feedbacks, hein, directement contacter David Catu.
David Catu@microsoft.com, voilà. Allez-y.
Ou alors @deltacoche sur Twitter. Il sera ravi d'avoir des nouvelles de votre part. Vous pouvez venir de notre part également, et il nous connaît très bien.
Voilà. Et puis autre.
J'ai testé Spartan et effectivement, on peut gribouiller des petits graffitis sur les pages web.
Ce qui est plutôt sympa. La science progresse, effectivement. Alors, parmi les progrès aussi de cette build 10.0.49, on a surtout beaucoup de bug fixes en fait, qui ont été faits avec la 10.0.41. Donc, des bugs mineurs. Et on a rajouté des nouveaux aussi, hein, puisque Hyper-V par contre ne fonctionne pas sur la 10.0.49, Hyper-V client. Donc, gardez ça en tête, hein, si vous êtes dans le fast ring de la 10.0.49, bah,
plus d'exécution de VM. Ouais.
À savoir.
Bon, mais je pense que là, ils sont bien au courant, hein, qu'il y a un problème.
C'est documenté dans l'article.
Oui. Donc, je pense que comme le fastring va vite corriger tout ça, c'est un peu le principe aussi. Eh bien, on a quand même fait le tour, là, donc déjà, des notes et d'office.
Dernière nouvelle, quand même, sur Windows 10, c'est que le 27, on a sorti un article où on précise que les prochaines builds de Windows Phone 10, enfin Windows 10, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Windows Mobile 10,
Windows 10
pour Phone. Supportera beaucoup plus de modèles de téléphone que la version actuelle.
Ah super, mon 1520 le supportera, donc
exactement.
Je suis très content.
Exactement.
Je crois que le 925 que j'ai également va le supporter.
Eh bien, on a hâte de jouer avec ça.
Ensuite,
Intune.
Allez, Intune. Donc, dans les nouveautés d'Intune. Article qui date du 17 mars, donc qui est un petit peu ancien, qui vous décrit, c'est assez intéressant si vous avez des appareils sous iOS, qui vous décrit par le menu comment utiliser le programme Apple Device Enrollment, le DEP, le Device Enrollment Programme d'Apple, pour l'enrôlement d'appareils iOS avec Intune. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un article également sur Intune et OneDrive que j'ai pas approfondi, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais je mettrai le pointeur sur l'article. Et puis un article qui décrit ce dont on parlait tout à l'heure avec le MDM inclus dans Office 365 et sur la différence avec Intune et comment choisir entre les deux en fonction de ses propres critères.
Voilà, on l'a déjà expliqué un peu tout à l'heure. Ça conforte par un petit tableau comparatif les deux, c'est cool.
Voilà, donc Actuality Intune qui est vraiment modeste pour l'instant.
Et bien, si on passait des nuages Office et Intune vers notre plus gros des nuages.
Vers Azure donc.
Exactement.
Donc Arnaud, un sujet qui est lié au backup dans Azure, c'est le Azure Migration Accelerator. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Eh bien, Azure Migration Accelerator, c'est effectivement un produit qui va directement dans la stratégie où on va permettre comme ça d'accélérer le passage d'une machine d'un cloud à l'autre et puis des scénarios de PRA. Donc l'idée de Migration Accelerator, c'est que tu vas avoir en fait une infrastructure sur ton site qui va être capable de, entre guillemets, pomper une machine virtuelle, une machine physique, une machine VMware, et d'aller récupérer la machine virtuelle et d'aller l'instancier après automatiquement dans Azure, automatiquement ou synchronisé dans un plan de reprise d'activité. Donc ça va être ta machine dans ton data center en train d'être exécutée sur quelconque des plateformes que je viens de citer, et ta machine virtuelle, elle va comme ça de l'intérieur en fait être répliquée sur Azure dans l'infrastructure Migration Accelerator, et ensuite dans ta console Migration Accelerator tu pourras dire bah voilà, ma VM qui tourne sur du VMware à l'heure actuelle, je suis capable d'aller la réinstancier dans Azure, et cette instanciation elle peut être soit temporaire le temps d'un PRA ou elle peut être définitive et comme ça te permettre de faire une migration rapide de ton workload. Donc voilà un peu l'idée de Migration Accelerator, qui est en fait un produit qu'on a racheté il y a quelques mois déjà d'une société, dont le nom m'échappe de mémoire, mais c'est un rachat. Donc pour l'instant, l'intégration n'est pas encore complète au niveau des interfaces graphiques, on est encore en train de bien polir tout ça, mais c'est un truc qui est extrêmement prometteur, extrêmement excitant comme technologie.
Merci Arnaud.
Avec plaisir.
Parce que je crois que tu dois nous quitter, donc
et oui.
D'autres aventures t'appellent. Merci et à très bientôt.
Merci.
Donc, Stanislas, Azure Backup.
Alors, Azure Backup, c'est notre service de sauvegarde dans les data centers d'Azure, de données qui peuvent provenir de différentes sources. Le service existe déjà depuis un an et quelques, à peu près, en version finalisée.
Oui.
Et aujourd'hui, le service, en fait, c'est plus d'un an d'ailleurs. Il fonctionne sur tout ce qui est Windows Server en tant qu'agent pour Windows Server ou Windows Server Essential 2012, Essential. Et donc il permet en fait d'apporter une amélioration à l'agent de sauvegarde intégré dans Windows pour faire une sauvegarde non plus locale ou sur une bande, mais en fait dans le nuage, c'est-à-dire dans Azure, le tout dans ce qu'on appelle un vault, donc un coffre-fort, c'est-à-dire une zone chiffrée sécurisée dans le data center.
Voilà, en fait on crée d'abord un coffre-fort dans Azure, et ensuite on descend, on télécharge un agent qu'on va installer sur nos machines à sauvegarder. Et grâce à cet agent, elles vont se sauvegarder, donc avec un mécanisme d'authentification aussi, auquel
oui,
il faut penser.
Exactement.
Donc historiquement, des credentials sur ces machines pour qu'elles aillent s'authentifier sur le vault et puissent se sauvegarder dans ce vault.
Oui, ce qui paraît logique. Et puis, cet agent de sauvegarde, bon, c'est bien pour des petites structures qui n'ont pas de solution globalement de sauvegarde et restauration. En général, c'est mieux quand la solution fait les deux. Pour ceux qui ont déjà du System Center DPM, Data Protection Manager, on a également la possibilité d'interconnecter le serveur DPM directement à Azure Backup, auquel cas les différents serveurs qui sont sauvegardés par DPM sont sauvegardés sur le serveur DPM qui, lui, après, retransmet la sauvegarde directement dans Azure. Donc ça, c'est ce qu'on avait jusqu'ici dans le service en fait, Azure Backup.
Voilà. Donc ça se trouve, si on va dans la console d'Azure, on va à gauche dans Recovery Services. Dans Recovery Services, on crée dans la version anglaise qu'on appelle un Backup Vault.
Voilà, un coffre-fort en français.
Et puis c'est là qu'on va gérer nos informations d'authentification, etc. Et puis récupérer l'agent et enregistrer nos machines.
Donc globalement, le service était dans cet état jusqu'ici avec un système de facturation que nos clients nous ont remonté comme n'étant pas tout à fait idéal, dans le sens où ça coûtait un peu cher, parce que chaque fois qu'on faisait un backup, on rajoutait du stockage, et donc du coup, le coût n'allait qu'en augmentant, en fait, parce qu'on empilait, entre guillemets, les archives. Donc ça coûtait un petit peu cher. Donc il y a eu deux choses qui ont été annoncées. La première, effectivement, c'est on a changé le modèle de facturation de ce service. Donc on l'a changé pour le bénéfice de nos clients, hein, soyons tout à fait honnêtes. Hein. Donc désormais, en fait, ça va le coût pour calculer un backup va se faire de la façon suivante. On a un coût qui est unique par mois, par instance protégée, donc en gros par machine protégée ou machine virtuelle.
D'accord.
Donc ce coût, en gros, il est on a ce qu'on appelle les small instances, donc ça veut dire une quantité de données à sauvegarder inférieure à 50 gigas. Donc ça, c'est $5 par mois. On a l'instance moyenne, entre 51 gigas et 500 gigas à sauvegarder, et ça, c'est €10 par mois. Et puis on a les grandes instances, les large instances, hein, qui sont donc de €10 par mois, plus un incrément, $10 par mois, plus un incrément de $10 pour chaque 500 gigas supplémentaires.
Logique.
Voilà. Donc ça, c'est le coût unitaire qu'on fait payer au mois. À cela, on doit rajouter également le coût du stockage sur Azure. Donc le stockage, il sera soit de $0.024 par giga et par mois. Ça, c'est qu'on est sur un stockage qui est répliqué, mais dans un même data center. Si on a envie d'avoir plus de sécurité et de répliquer sur deux data centers d'Azure différents, ce sera ce qu'on appelle sur un stockage GRS, Global Redundancy.
Geo Redundant Storage,
merci Pascal. Donc stockage redondant géographiquement. Et là, en fait, on est sur le double en fait, du prix du local, c'est-à-dire $0.048 par giga et par mois. Voilà, donc on additionne le coût de l'instance plus le coût du stockage qui est relativement faible. Qui va être un peu plus important si on veut effectivement le géo redondé. Voilà. L'intérêt, alors du coup, ça revient moins cher que par calcul que ce qu'on avait comme solution avant. Et à retenir, c'est qu'on ne vous facture aucun frais supplémentaire pour tout ce qui est restauration, pour tout ce qui est bande passante sortant ou pour tout ce qui est transaction sur le stockage pour pouvoir effectivement déplacer ces choses-là.
D'accord.
Donc voilà, les calculs ont été faits globalement. Si on compare par exemple une VM qui une machine virtuelle de 100 gigas, sur lequel en gros on aurait 1% de changement, donc à peu près 1 giga par jour de changement qui serait impacté par le backup. On a fait le calcul de la progression quand on était dans l'ancien système en fait. On était donc du coup sur une augmentation incrémentale au fur et à mesure du prix, parce que on rajoutait au fur et à mesure chaque fois une sauvegarde. Et donc on a comparé avec le nouveau système de facturation, et en fait on est à 77% d'économie par rapport à l'ancienne tarification. Donc on ne peut pas trop se plaindre finalement de ce nouveau modèle de tarification qui du coup devient tout à fait intéressant. Rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est sur la partie tarification. Peut-être dans les nouveautés, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder désormais, Pascal, les machines virtuelles dans Azure, donc celles qui tournent dans le IaaS d'Azure.
Donc ça, c'est une nouveauté récente, de permettre de faire des sauvegardes directement de Azure à Azure, en fait. On va prendre nos machines virtuelles qui sont en IaaS dans Azure et les sauvegarder avec Azure Backup. Donc le principe est assez simple, on a fait le test tous les deux cette semaine. Donc il s'agit d'aller donc comme je disais, dans les recovery services d'Azure, de créer un backup vault, c'est-à-dire un coffre-fort de sauvegarde. Et puis ensuite, il y a une procédure à suivre en trois étapes. Il faut d'abord découvrir les machines virtuelles, ensuite les enregistrer et ensuite les backuper. Donc découverte...
À noter, c'est que la création du vault va se faire dans la région où sont les machines virtuelles, ce qui est logique pour éviter effectivement de sauvegarder des machines virtuelles des États-Unis vers l'Europe, par exemple.
Oui, voilà, on backup dans la même région, à l'intérieur de la même région. La phase de découverte est assez simple. On clique sur un bouton, en gros, on fait découvrir et il va nous sortir la liste des machines virtuelles qui ne sont pas encore protégées par le backup. On va sélectionner celles qu'on veut sauvegarder. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape qui est intéressante, l'étape un petit peu technique, qui consiste à les enregistrer. Et en fait, qu'est-ce que va faire le système Azure donc, quand on va lui demander d'enregistrer les VM qu'on a cochées, qu'on a sélectionnées? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les extensions, le système d'extension des machines virtuelles d'Azure. Donc déjà, il faut avoir installé l'agent. Enfin, il faut ne pas avoir choisi de ne pas installer l'agent. Donc il faut avoir installé l'agent... Azure dans les machines virtuelles, qu'elles soient Linux ou Windows, ça fonctionne également dans les deux. Et puis il va installer une extension de backup via cet agent, une extension de machine virtuelle au sens Azure, et c'est ceci que fait l'étape d'enregistrement. Une fois que c'est fait, donc la machine est prête à être enregistrée, mais il faut faire une troisième étape qui consiste à aller faire ce qu'ils appellent une backup policy. Donc une stratégie de sauvegarde dans laquelle on va dire je vais faire une sauvegarde par exemple tous les jours, donc avec tel planning, par exemple la nuit à telle heure, dans les périodes de creux de vie de la machine virtuelle. Et puis on va définir une politique de rétention, une durée de rétention. Par exemple, on va dire je veux sauvegarder tous les jours, je veux garder une sauvegarde par jour, mais je veux garder un mois de sauvegarde. Donc toutes les sauvegardes de quotidienne pendant un mois, par exemple. Ce qui est intéressant également, c'est que il y a une sauvegarde complète et des sauvegardes incrémentales. Donc au niveau volume, on n'a pas un volume complet à chaque sauvegarde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vu qu'on paye, si j'ai bien compris, dans le nouveau système, on paye un petit peu au stockage, donc on gagne un stockage avec cette sauvegarde incrémentale.
Ce qui explique d'ailleurs le fait que ça revienne moins cher qu'auparavant aussi.
Oui, tout à fait. Donc j'ai vérifié dans mes policies parce que j'ai plus souvenir, est-ce qu'on choisit le moment où on fait des sauvegardes complètes et des sauvegardes incrémentales?
Non, c'est fait naturellement, c'est le système en fait qui va vraiment gérer pour vous la mécanique interne. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que votre machine, vous l'avez enregistrée, donc en gros que l'agent de sauvegarde s'est déployé, vous avez simplement à définir quand vous voulez faire votre sauvegarde, c'est-à-dire les plages horaires, et également le nombre de rétentions que vous voulez en nombre de jours ou en nombre de semaines, sachant qu'à ma connaissance, la limite aujourd'hui est de 4 semaines maximum de rétention.
Moi, j'ai défini 30 jours dans ma politique.
4 semaines, ça ne doit pas être bien moins de 30 jours. Donc c'est probablement des chiffres qui vont évoluer dans le futur pour de l'archivage. Mais aujourd'hui, à retenir, c'est qu'effectivement, on est sur une limitation de 4 semaines pour la rétention de la sauvegarde.
D'accord. On peut choisir une sauvegarde tous les jours, quotidienne ou hebdomadaire.
ou une fois par semaine.
Oui, là-dessus, honnêtement, il n'y a rien de transcendant par rapport à la majorité des outils de sauvegarde existants depuis 15 ans sur le marché. Mais le bon côté, effectivement, c'est que du coup, on ne se pose pas, quand c'est des machines virtuelles dans Azure, on ne se pose pas la question du temps de sauvegarde, de la bande passante nécessaire, parce que c'est vraiment géré intrinsèque au data center. Et donc, du coup, ça se fait entre guillemets en arrière-plan, et c'est plutôt pas mal. Et comme tu l'as dit, Pascal, pour peu qu'on ait installé avec les valeurs par défaut une machine virtuelle, Windows ou Linux, l'agent est déjà préinstallé. Et donc, du coup, la sauvegarde des machines Linux devient relativement simple à faire également. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et tu m'arrêteras, qu'au niveau Windows, on assure une sauvegarde de l'état applicatif. Oui. Au niveau des machines Linux, on sauvegarde l'état au niveau du système de fichiers.
Au niveau du fichier, oui, tout à fait. J'ai là protégé une machine virtuelle Linux. En fait, pour la petite histoire, j'ai fait le test sur la VM qui héberge ce podcast. Donc c'est une machine virtuelle Ubuntu qui se trouve dans Azure et qui maintenant, depuis hier, est sauvegardée tous les jours. Et donc je vais pouvoir regarder, en même temps que je vous parle, l'état de la sauvegarde. La dernière sauvegarde a eu lieu ce matin à 4h. Elle a été complétée. Et donc le dernier point de recovery, point de restauration, est ce matin à 4h. Il y a un mécanisme, il y a une notion effectivement de point de restauration. En fait, il s'agit dans mon cas, puisque j'ai une politique, une sauvegarde quotidienne avec une rétention de 30 jours. Donc j'aurai au maximum 30 points de récupération, où je pourrais revenir en arrière si je le souhaite.
Exactement. Et du coup, on va pouvoir comme ça tester également la restauration, car c'est un problème assez récurrent de faire des sauvegardes, de ne jamais tester la restauration. Donc on va le faire prochainement. Vous aurez également prochainement un article qui vous expliquera dans nos blogs comment justement paramétrer en mode pas à pas la sauvegarde d'une machine virtuelle Azure dans Azure Backup.
Voilà.
Tant qu'on est sur les machines virtuelles, je pense qu'on aura à peu près du coup fait le tour du contenu de ce podcast. On a fait également un petit changement au niveau de la taille des disques système dans les machines virtuelles d'Azure.
Ah oui.
Donc attention, roulement de tambour, évolution. La taille du disque dur virtuel système d'une machine virtuelle passe de 127 Go maximum à 1023 Go. Soit un rapport de 8. Donc ça simplifie en fait surtout tout ce qui est réplication de machines virtuelles depuis le cloud privé à destination d'Azure, parce qu'effectivement on s'est aperçu que 127 gigas c'était un petit peu limite pour certains disques de certaines machines virtuelles dans les data centers d'aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Privé. Donc
quand
du coup,
migrer des machines virtuelles. Oui.
Voilà, quand on va pouvoir migrer ou faire un réplica des machines virtuelles, désormais, on n'aura plus cette limitation qui était d'avoir un disque système de 127 Go. Mmh. C'est une petite évolution, mais c'est presque une révolution entre guillemets. Donc désormais, disque système ou disque de données sont des disques qui ont une taille de maximum 1023 gigas, ce qui est la taille maximum d'un page blob sur Azure.
Donc au niveau d'Azure et des VM, il y a eu d'autres petites nouveautés qui sont pas mal intéressantes également. Il y a eu notamment la mise à disposition dans le marketplace d'un serveur chef, un chef serveur, et donc pour faire du provisioning d'Azure avec chef, ça c'est plutôt pas mal.
Donc chef, c'est de la maintenance de configuration, c'est, on va dire, utilisé un peu dans les environnements de type DevOps, et ça permet effectivement de déployer avec les configurations souhaitées des machines. Ce que fait également un autre produit qu'on a annoncé.
Oui, qui s'appelle Salt Stack.
Voilà, donc c'est pas fait par Microsoft, mais la machine est disponible dans le marketplace, donc le serveur Salt.
Voilà. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas, pardon, Chef et Salt et toutes ces choses-là, et PubPub et compagnie, c'est pas grave, puisque vous pouvez toujours utiliser PowerShell DSC, ça marche beaucoup mieux.
Un petit peu de publicité ne fait jamais de mal. Alors, qu'est-ce que nous avons encore
On a quelques petites nouveautés au niveau d'Azure Active Directory et d'Active Directory, notamment la disponibilité d'une nouvelle preview, la preview 2 de Azure AD Connect. Azure AD Connect, hein, je rappelle, c'est le produit qui permet de
de mettre en place une fédération d'identité, une synchronisation d'annuaires et éventuellement une fédération d'identité avec un seul outil.
Voilà, donc c'est un super assistant, entre guillemets, pour packager l'installation de différents composants qui fait de manière unitaire quand on ne connaît pas trop, qu'on n'a pas trop lu les procédures. C'est un petit peu compliqué. Donc on va dire que ça simplifie un peu le déploiement. Ça ne le rend pas extrêmement simple, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même des conditions à respecter, il y a quand même des opérations à faire, tout n'est pas automatisé. Mais globalement, on va dire que ça simplifie quand même la tâche. Si vous voulez mettre en place une fédération d'identité, ce qui est majoritairement une des choses les plus utilisées. Et du coup, je bascule sur un autre article qui a été publié récemment par les équipes Azure AD, où en fait, l'article s'appelle « Quel est le meilleur moyen de se connecter, Office 365 et Azure ?» Donc à savoir, c'est quand vous êtes le client d'une location d'un tenant Office 365, vous utilisez forcément en arrière-plan en fait, de l'Azure Active Directory. Donc du coup, après, on a différentes options pour s'authentifier en tant qu'utilisateur vis-à-vis d'Office 365 et donc d'Azure Active Directory. Donc première option qui est retenue par à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 55% de nos clients, c'est d'utiliser pour provisionner les comptes dans Azure Active Directory, donc c'est remplir Azure AD avec les données locales. Eh bien, ils utilisent Azure Active Directory Sync ou Dir Sync, qui sont donc les outils de synchronisation qu'on propose. Étonnamment, on a 41% des clients qui font le provisioning des comptes dans Azure directement dans le portail, c'est-à-dire manuellement, ou via PowerShell. Alors en fait, ça peut s'expliquer simplement parce que aujourd'hui, on a 4,9 millions d'organisations qui utilisent en fait Azure Active Directory. Ça représente quoi, 430 millions à peu près d'objets utilisateurs. Et la majorité de ces 4,9 millions d'entreprises, en fait, c'est des petites structures qui ont moins de 500 employés. Du coup, on peut comprendre effectivement que dans pas mal de cas, ils recréent des objets ou simplement ils envoient un petit script pour réinjecter un CSV de leur AD. Et ils ne veulent pas déployer un rôle complémentaire. Néanmoins, on peut quand même retenir qu'il y en a plein qui auraient pu faire la même opération avec un Dir Sync. L'intérêt justement du AAD Connect dont on a parlé au préalable, c'est vraiment d'être un outil qui va pour vous installer tout ça de manière relativement aisée pour faire la synchronisation. Donc du coup, après, sur ces quelques chiffres qui nous ont été donnés, ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque jour, en fait, on fait à peu près 1 milliard, enfin Azure Active Directory opère 1 milliard d'authentifications. Donc ça, c'est le chiffre moyen. Donc à peu près tous les jours, il y a 1 milliard d'authentifications qui sont faites sur Azure Active Directory, donc c'est tout pas mal. Et les jours de pic, on a fait des pointes à 2 milliards. Donc on va dire que le service est quand même plutôt assez robuste. Et puis les gens d'Azure Active Directory ont fait une sorte de synthèse un petit peu de ces 1 milliard d'authentifications. Et ils sont aperçus en fait que 56%, donc un peu plus de la moitié, étaient des authentifications entre guillemets 100% cloud, c'est-à-dire qu'elles étaient faites par Azure AD. Donc on est typiquement dans des comptes utilisateurs qui sont soit uniquement présents dans Azure Active Directory, soit des comptes utilisateurs qui ont été en fait synchronisés avec leur mot de passe depuis l'Active Directory sur site. Donc ça, c'est 56% des clients sur 5 milliards. On a 32% où les authentifications sont effectuées par un serveur ADFS, côté dans le data center de nos clients. Donc je le rappelle, quand on fait de la fédération d'identité, on synchronise des objets utilisateurs, mais pas tous les attributs, et on ne synchronise pas les condensés de mots de passe. Donc ça veut dire que pour la partie authentification, quand l'utilisateur se connecte au service comme Office 365, celui-ci le redirige pour l'authentification sur un serveur exposé sur Internet par le client dans son data center, qui s'appelle un STS, un Secure Token Server, qui peut prendre différentes formes. Dans les implémentations Microsoft, ça s'appelle un serveur ADFS. Et donc ça représente aujourd'hui 32% de nos authentifications qui sont faites justement de cette manière-là.
Ce qui est pas mal parce que c'est la solution la plus complète.
Exactement.
Fédération la plus intéressante puisque les utilisateurs ne sont créés qu'à un seul endroit, les mots de passe sont à un seul endroit dans le data center de l'entreprise.
C'est clairement l'option qu'on recommande. Là encore, on parlait d'AAD Connect tout à l'heure. AAD Connect permet de faire ce type de déploiement et vous aide à le faire de manière un petit peu.
Y compris
plus.
Le ADFS, le STS qui va bien, etc.
Exactement.
Qui n'est pas immédiat, qui ne se fait pas en 5 minutes d'ordinaire.
Donc ça veut dire qu'on est à à 88%, 89% à peu près, des authentifications qui sont faites soit en mode 100% Azure AD, soit en mode fédération. Et puis, il reste derrière, après, quelques pouillades de pourcentage. Ça doit représenter un peu moins de 7%, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, c'est fait par des tiers, c'est-à-dire des serveurs de fédération différents des serveurs ADFS, ou par des services d'identité complémentaires sur Internet qui servent de relais. Donc il y a des choses comme Okta, OneLogin, Centrify, c'est des choses comme ça. Mais globalement, à l'échelle, entre guillemets, des 1 milliard d'authentification, ça représente que 1% pour chacun des individus, donc c'est plus anecdotique qu'autre chose. À retenir, en gros, c'est fédération d'identité quand vous avez une grosse structure et que vous voulez conserver vos mots de passe, ou alors synchronisation dans le cloud des mots de passe, et donc authentification par le cloud uniquement quand vous êtes une plus petite structure, ou alors que ça ne vous gêne pas de synchroniser vos condensés de mots de passe dans Azure Active Directory. Une petite dernière sur la partie Azure Active Directory avec un nouveau service en disponibilité finale.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait du MDM qui était disponible dans Office 365 et donc de la fonctionnalité Conditional Access, l'accès conditionnel où on réserve l'accès aux appareils qui sont connus, qui sont enregistrés. Et bien, ça s'appuie sur une fonctionnalité de Azure Active Directory qui s'appelle le Device Registration Service, qu'on connaît également sous un autre nom dans Active Directory classique, entre guillemets on-premise, et qui s'appelle Workplace Join dans ce cas-là. Donc ce Device Registration Service, service d'enregistrement des périphériques, est maintenant quelque chose qui est disponible pour tous les Azure Active Directory, donc pour tous les comptes Azure Active Directory. J'ai plus en tête si c'est une fonctionnalité réservée aux Azure Active Directory Premium ou non. Mais en tout cas, je ne crois pas. Mais voilà, c'était en preview. On l'a déjà montré, testé à maintes occasions. Mais maintenant, c'est globally available. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Et ça a été sorti donc en même temps qu'on a annoncé la disponibilité pour tout le monde du MDM dans Office 365, puisque c'est basé sur la même technologie. Pour conclure, Stan, bientôt, début mai, du 3 au 8 mai, il y a un événement Microsoft, le gros événement, le plus gros événement IT de Microsoft qui aura lieu aux États-Unis à Chicago, qui s'appelle Ignite, Microsoft Ignite, qui va mettre le feu.
Voilà, donc on va dire Ignite, c'est le rassemblement de plusieurs événements, c'est-à-dire rassemblement de la conférence SQL, du TechEd, de la conférence MMS. Ils ont consolidé les événements pour en faire un seul gros, effectivement. Donc le nom a changé. Dans l'esprit, on reste encore sur tout ce qui est TechEd, MMS, SQL. C'est juste la grosse conférence. Et donc on devrait avoir normalement pas mal d'annonces début mai. Parce qu'en général, c'est rare qu'il y ait une conférence aux US faite par des Américains sans qu'il y ait des annonces sur, là encore, Azure, Windows 10, il devrait y avoir pas mal de choses. Office, très probablement. SQL, certainement. Et puis Windows Server, encore plus.
Donc j'en parle parce que l'agenda des sessions a été publié et quasiment définitif. Donc toutes les sessions sont publiées sur le site. Le contenu n'est pas publié, mais leur titre et leur agenda est publié. C'est ignite.microsoft.com, ignite.microsoft.com /sessions pour les sessions. Donc ça sera l'événement, comme on a dit, un peu IT de l'année. Début mai, juste avant, fin avril, je crois, il y aura la build. Donc, il sera un petit peu l'événement développeur autour de Windows 10, HoloLens et tout ce genre de choses-là. Donc, il y aura deux gros événements vraiment entre fin avril et début mai qui vont nous alimenter pour toute l'année à venir en termes d'infos et de technologies. On va avoir beaucoup de boulot après ça et ça va être super intéressant.
À noter peut-être, mais on en reparlera je pense d'ici là, on va avoir fin mai, à partir de mi-mai, on va dire troisième semaine de mai, on va faire un petit tour de France avec nos amis développeurs, donc on ne peut pas encore dire le nom du tour, mais ce sera un petit tour de France, voilà. Et donc on aura deux tracks au moins, trois peut-être même. Il y aura au moins un IT et un dev. Et donc, on reprendra en fait dans ce tour Donc à destination de tout le monde, hein, développeur et professionnel IT. Un rappel en fait des nouveautés qui auront été annoncées à Ignite, mais également pour les développeurs de l'ensemble des nouveautés qui ont été annoncées lors de la conférence Build qui a lieu donc avant Ignite et qui traitera très majoritairement de développement Windows 10, quelle que soit la taille du périphérique. Donc du coup, ce sera la bonne occasion, si vous êtes en province, de passer nous voir. On fera donc une journée comme ça de conférence avec une keynote le matin et l'après-midi, donc plusieurs tracks de sessions. Ça rappellera peut-être pour les plus anciens les Microsoft Days ou feu les Dev Days ou feu des bouts de briefing rencontre. Mais l'idée est là derrière, c'est on reprend les mêmes personnes, c'est-à-dire les équipes que vous connaissez, et on revient vous refaire la mise à jour, l'upgrade de tout ce qui aura été raconté entre fin avril et début mai côté Microsoft aux États-Unis.
À propos de Tour de France, on continue aussi également nous notre Tour de France dédié à la migration de Windows Server 2003. Et donc dans ce Tour de France, on a fait déjà quelques dates. La dernière fois, on était à Bordeaux en début de semaine. Demain, le vendredi, on est à Lyon, à l'agence Microsoft à Lyon. La semaine prochaine, le 9 avril, on est à Clermont-Ferrand. Le 14 avril, on sera à Aix-en-Provence et le 16 avril, à Nice.
Il doit manquer encore Strasbourg et Lille.
Et Strasbourg le 21 avril et Lille le 23 avril.
Et donc, pour vous inscrire, parce que c'est gratuit, à cette journée qui est donc animée le matin par un partenaire et l'après-midi par nous, Microsoft, http://itcamp.fr, et là vous avez la liste des dates avec les adresses où ça se passe. L'événement est gratuit, le repas à midi est compris et il est gratuit. La caféine et les glucides pendant les pauses sont également offerts et la bonne humeur est la bienvenue. Donc ça permet de traiter d'un sujet qui comme ça peut paraître pas très rigolo, qui est effectivement comment se débarrasser de ces vieux Windows Server 2003 et 2003 R2. Mais en tout cas, quand vous ressortirez de cette journée, certes un peu fatigué, vous aurez les bonnes bases entre guillemets pour finir de remplacer ces vieux tromblons qui marchent bien encore probablement, mais qu'il va falloir remplacer, car le 14 juillet prochain, ils ne seront malheureusement plus supportés.
Exactement. Eh bien, on a fait le tour.
Eh bien, c'était un beau petit tour. Hein. Là, c'était une bonne actualité sur cette quinzaine.
On se retrouve dans deux semaines en fonction du calendrier et des vacances et ce genre de choses-là. Donc, je reviendrai vers vous pour le calendrier exact. Arnaud nous a déjà quitté, on lui a déjà dit au revoir tout à l'heure. Ben, Stan, pareil.
Au revoir.
Merci à toi.
À bientôt, Pascal.
Au revoir, à bientôt. Et merci.